Retrouvez, si vous le souhaitez, l'ensemble de leurs podcasts sur le site backstagelepodcast.com, tout attaché en minuscules. Aujourd'hui donc, troisième épisode de l'entretien avec le superviseur des effets visuels Cédric Fayol, au micro de Margot Delpierre sur un montage et un mixage de Thomas Langlin.
Comment je suis devenue super-héros? C'est le premier film de super-héros à la française qui doit sortir au printemps 2021,
ouais, qui a
normalement.
Été décalé en avril. Ouais.
Est-ce que là aussi, c'était très ludique, très amusant pour vous de travailler dessus? Vous avez pu vous lâcher dans un film où, comme ça n'existe pas dans notre réalité, on se doute qu'il y a beaucoup plus d'effets visuels?
Oui, et puis en plus, c'est extrêmement rare en France de faire ce genre d'effets qui sont plutôt faits par des blockbusters américains, Marvel et autres DC Comics. Là, on avait un terrain de jeu qui était super parce que effectivement, tous les graphistes ici aiment les effets spéciaux en général. Et là, d'avoir l'occasion de faire des super-héros, c'est assez ludique, quoi. Parce que d'habitude, on fait des effets plutôt invisibles. Et là, on nous demandait de ce que ça soit, qu'ils soient bien visibles.
Et ça vous amuserait d'en faire d'autres comme ça ?
Ah ben c'est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est la variété des effets. Si c'est toujours faire le même effet, ou d'un moment c'est un peu répétitif. Là, d'un seul coup, c'est aller sur des terrains inconnus, c'est essayer de comprendre les codes de ce genre-là, c'est jouer avec tout ça. C'est ça qui est intéressant dans notre métier, c'est que chaque film nous amène quelque part.
Et vous travaillez avec une équipe de combien de personnes pour chaque film? Est-ce que c'est très différent à chaque fois?
C'est complètement différent. En fait, ça, on peut travailler avec 3 personnes comme avec 40. Donc ça dépend de la taille du projet, ça dépend de son budget, ça dépend du temps de fabrication. Par exemple, là, si je prends les deux derniers qui sont Adieu les cons, on était... on va dire une petite quinzaine. Il y avait beaucoup, beaucoup de plans, mais comme on avait 8 mois pour le faire, en fait, on a préféré faire une petite équipe sur la durée. Et pour super-héros, il y avait un peu moins de plans, mais on était une vingtaine parce qu'on avait moins de temps. Voilà. Donc après, c'est la répartition budget-temps qui détermine la taille de l'équipe, en fait.
Comment vous avez commencé chez Mikros?
Oula, j'ai commencé il y a longtemps. Ça fait 23 ans que je suis à Mikros. Je suis arrivé en 97. De ma province, donc je viens d'Aix-en-Provence. En fait, j'y connaissais rien aux effets spéciaux du tout. Je suis arrivé par hasard dans cette société. Je savais que je voulais travailler dans le cinéma. Je m'étais orienté plutôt vers le montage. Mais bon, à l'époque, il n'y avait pas trop d'école, tout ça. Enfin, moi, il y avait des BTS. Mais moi, j'avais fait un bac option cinéma, plutôt littéraire. Donc, j'avais pas été pris dans les BTS. Donc, je pouvais pas faire de montage. Donc, j'étais plutôt parti à la fac. Et puis j'ai une amie qui travaillait à Mikros et qui m'a dit si tu cherches un petit boulot peut-être que je peux te trouver dans cette boîte qui à l'époque faisait pas de cinéma, elle faisait que de la pub, essentiellement de la pub. Je suis rentré, j'ai fait un petit stage, je savais rien faire. Donc ils m'ont donné je me suis occupé de faire des copies, je faisais des copies de cassettes. Et puis au bout d'un an, j'ai fait peut-être que j'allais trouver un métier dans le cinéma. Et puis là, à ce moment-là, enfin moi j'ai découvert qu'il faisait des effets spéciaux, ce que je ne savais pas. En fait, je n'avais absolument aucune conscience des effets spéciaux. Mais vraiment, j'étais ma fac de cinéma. Nous on étudiait Godard, Truffaut, Bergman. Donc j'étais pas du tout dans ce cinéma-là. Donc quand je suis arrivé et j'ai vu qu'il faisait des effets spéciaux pour la pub et tout ça, j'ai fait waouh, c'est dingue quand même ce qu'on peut faire avec une palette graphique. Enfin, j'avais pas conscience. Mais malgré tout, j'avais pas envie de faire de la pub particulièrement. Et au moment où je me disais il faut peut-être que je m'oriente vers ce qui me plaît, ils ont dit on va se lancer dans les effets spéciaux pour le cinéma. Là, j'ai fait là pour le coup cinéma ça me parle. J'y connais rien d'effets spéciaux mais cinéma ça me parle. Donc ils m'ont embauché en tant qu'assistant graphiste pour faire du cinéma. Et voilà, et d'un seul coup, j'avais moi toutes les références cinématographiques. Je connaissais tous les réalisateurs. J'étais un spectateur assidu, Et donc d'un seul coup, j'y suis arrivé par ma cinéphilie, à discuter avec des réalisateurs, à leur montrer l'intérêt de faire des effets visuels, et donc d'accompagner certains réalisateurs. Et petit à petit, et puis après, je me suis pris au jeu des effets spéciaux. Ouais.
Mais les plus jeunes qui rentrent chez Mikros aujourd'hui pour faire des effets visuels, ils ont quoi comme formation ?
Bah, entre-temps, ça s'est beaucoup démocratisé, les effets spéciaux. Maintenant, il y a des écoles d'effets spéciaux publics et privés qui sont vraiment pertinentes. Et nous, on a même des recruteurs qui sont à la sortie des écoles, qui vont caster des jeunes diplômés et qui sont opérationnels dès sortie d'école, hein, ce qui n'était pas mon cas. Moi, il a fallu que je me forme. Hein, voilà. Mais maintenant, ils sont opérationnels dès la sortie de l'école. Et quand on voit les courts-métrages qu'ils fabriquent, c'est dingue, c'est d'une qualité professionnelle. Il y en a qui ont fini aux Oscars, etc. Déjà, c'est des vrais techniciens maintenant des effets visuels. C'est des vrais techniciens.
Il y a des studios français comme Micros qui sont devenus incontournables et qui vous travaillez en dehors des frontières françaises d'ailleurs.
Oui, bah oui. Après, voilà. Quand on prend Micros qui a 35 ans, effectivement, maintenant on est un peu connu, un peu dans le monde, beaucoup en publicité. En cinéma, on est encore sur le cinéma français, mais oui, on a une reconnaissance mondiale.
Justement, la publicité, il y a vraiment des publicités très très belles. On voit qu'il y a eu énormément de travail dessus. Je pense à la pub Perrier, qui, je crois, est l'un des projets récents de Micros en publicité. Là, il y a quasiment le budget d'un petit film. Comment ça se passe?
Oui, après les budgets publicitaires sont un peu différents des budgets long métrage parce que c'est pas du tout la même façon de financer les projets.
Et il peut y avoir plus d'argent pour une publicité que pour un film.
Ça peut arriver, ouais, ça peut arriver. Mais après les enjeux sont pas les mêmes. La publicité, c'est vendre un produit, donc c'est vendre une image, donc c'est voilà, donc c'est il s'appuie beaucoup sur l'esthétique. Micros a fait des pubs magnifiques, mais c'est de l'image, c'est pas de la narration. Et c'est vrai que au cinéma, l'important c'est la narration. Mais l'avantage d'avoir à Micros la pub et le cinéma, c'est que comme en pub ils font beaucoup de projets, on récupère du savoir-faire énormément, parce que c'est les mêmes graphistes. Hein. Donc on récupère les savoir-faire des fois de publicité qu'on va réutiliser dans le cinéma. Donc ça c'est super, parce qu'on n'aurait que le cinéma, on ne pourrait pas aller aussi loin. En fait.
Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre travail?
Ce que j'aime le plus, moi, c'est accompagner les réalisateurs parce que, comme je vous disais tout à l'heure, moi, j'ai fait des études de cinéma plutôt littéraire. Et puis, les effets spéciaux sont un prétexte pour moi d'approcher ces gens-là. C'est-à-dire, quand je suis sur un plateau ou quand je suis en préparation avec ces gens-là, je suis en masterclass permanente. Je les vois diriger des acteurs, je les vois. Enfin, c'est incroyable, quoi. C'est une place privilégiée, dingue, dingue. De voir ces gens-là travailler, d'avoir le privilège de les voir travailler, ça, c'est même pas être juste fan, c'est de laisser le privilège de les voir travailler et de voir leur processus mental. C'est juste dingue.
Il me semble, si je me trompe pas, que vous avez travaillé sur bientôt près d'une centaine de films. Mm-hmm. Il y a pas de lassitude, vous aimez toujours ça?
Ben oui, pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que chaque projet est différent. Quand on travaille avec un réalisateur, à chaque fois il arrive avec un nouveau scénario, avec des nouvelles envies, avec... Et c'est génial de voir ça et de pouvoir participer à ces projets. Donc, il ne peut pas y avoir de lassitude. Après, les techniques évoluent. En 20 ans, où moi, je suis quasiment arrivé au début des effets numériques, on tournait encore en pellicule, etc., bidule. La technologie a avancé. Encore aujourd'hui, ça évolue avec les technologies du jeu vidéo. Donc, voilà. Donc, on a encore des nouvelles façons de raconter des choses, des nouveaux outils, des... Voilà, il n'y a pas de lassitude. Et à chaque fois, il y a des jours où je suis un peu fatigué et je me dis, oh, j'en ai un peu marre d'enchaîner. Et puis, au moment où vous dites ça, vous recevez un scénario d'un réalisateur et puis on ne peut pas s'empêcher de le lire, hein, forcément. Vous recevez. Et puis vous faites, oh, c'est génial, il faut que je le fasse, je ne peux pas passer à côté. Donc, en fait, ouais.
C'est l'histoire qui vous embarque.
Mais ouais, mais mais moi, c'est l'histoire. Hein. Ouais. Yeah, c'est l'histoire. Il y a des films où il y a certains scénarios qu'on lit, machin truc, qu'on fait bon.
Yeah, ça vous ennuie un peu?
Ouais, là on se dit, ah ben ça je l'ai déjà fait, ou l'histoire elle est pas très originale, etc. Et on le fait de façon un peu plus professionnelle. Et on le fait parce que c'est notre métier, mais c'est un peu moins enthousiasmant. Mais ça, forcément, sur plus d'une centaine de films, il y a un moment où vous ne faites pas que des chefs-d'œuvre. Hein. Mais par contre, ça ne veut pas dire que ce n'est pas des belles rencontres. C'est-à-dire que j'ai rencontré des super techniciens, des super réalisateurs, voilà, et ce n'était pas forcément leur meilleur projet. Mais puis, d'un seul coup, le film d'après devient un super projet. Donc après, c'est un métier de rencontre. Il y a beaucoup d'artistique là-dedans. Enfin, il y a quand même toujours une énergie. On trouve toujours une énergie quelque part, hein, positive.
Ça vous est déjà arrivé de refuser des projets parce que vous n'étiez pas emballé ou que le travail n'était pas suffisamment intéressant?
Non, il y a certains projets où on y va un peu à reculons, Et puis en fait, on s'aperçoit que le réalisateur, il a une patte. Tout n'est pas dans un scénario des fois, en fait. C'est après ce qu'il faut imaginer, c'est que le scénario, c'est pas un livre, donc c'est pas un objet final. C'est juste un outil de travail, c'est une bible pour fabriquer des images. Et donc pour le coup, d'un seul coup, vous lisez un scénario, puis vous faites. Il y a un truc qui marche pas ou je comprends pas ce qu'il veut dire. Et puis donc vous rencontrez le réalisateur, puis le réalisateur vous explique ce qu'il a envie de faire par l'image et vous faites ah oui, d'accord, ok, je comprends très bien. Et dans ce coup, on relit le scénario avec cette vision-là. Donc ouais, un scénario peut être piégeant des fois.
Avec quel réalisateur ou réalisatrice vous rêveriez de travailler ?
Oh, il y en a plein. Après, j'ai eu la chance de travailler avec plein, mais...
On peut en citer plusieurs, hein, si vous avez plusieurs rêves.
Non, mais là, il faudrait que je prenne un peu plus de temps pour réfléchir, parce que il y a Yann Kounen, par exemple, qui est un réalisateur qui a bercé mon adolescence avec ses films, qui a un sens de l'image qui est super. J'aimerais bien travailler. Après, c'est particulier parce qu'il y a beaucoup de réalisateurs avec qui j'aimerais travailler qui ont aussi déjà leur superviseur d'effet, avec qui ils travaillent depuis longtemps. Et ça, c'est un truc que je respecte. Enfin, j'irai pas chasser sur les terres d'un autre.
Parce qu'il y a une question de fidélité, de loyauté.
Ouais, et puis je comprends ça, parce que moi, je l'ai, et je comprends. C'est quelque chose d'important pour un réalisateur de s'appuyer sur des techniciens de confiance. Ils l'ont avec leur chef opérateur, ils l'ont avec leur ingé son, ils l'ont avec leur monteur, monteuse. J'ai rencontré Gaspard Noé, on a discuté un peu, et je sais qu'il travaille avec un autre superviseur, et j'ai pas du tout eu cette envie de j'aurais l'impression d'être un voleur en fait, hein. Donc je respecte ça. Et puis après, il y a un truc qui est assez marrant, c'est qu'après quand vous travaillez avec des réalisateurs, que ça soit moi, Albert Dupontel ou Jacques Audiard, c'est une réflexion que je me faisais il y a pas longtemps. Je me disais, c'est marrant parce que c'est des gens que forcément, à la première fois que j'ai travaillé avec eux, je suis toujours fan absolu, mais j'ai plus la surprise de découvrir ça en salle. J'ai plus ce plaisir de spectateur de découvrir leur film et de me prendre une claque. Ça, je ne l'ai plus parce que j'ai lu le scénario, j'ai suivi tout le tournage, j'ai fait toute la fabrication, j'ai vu le film Adieu les cons, j'ai dû le voir déjà 25 ou 30 fois. Donc il y a plus ce truc-là. Donc après, bien sûr, je ne veux pas qu'ils partent et qu'ils aillent voir ailleurs, mais c'est pour ça qu'il y a certains réalisateurs qui sont super. Vous prenez Jeunet, Jean-Pierre Jeunet, c'est super. Je sais qu'il a un superviseur et qu'il travaille depuis de nombreuses années. Et en même temps, je me dis, c'est super. Je conserve encore ce truc-là de spectateur, parce que c'est important. Ouais.
Il n'y a plus le plaisir de la découverte, donc, mais est-ce qu'il y a quand même le plaisir de revoir les films sur lesquels vous avez travaillé ?
Après un certain temps, ouais. Il faut laisser passer un certain temps. De temps en temps, il repasse à la télé des films sur lesquels j'ai travaillé il y a quelques jours. Il repassait Hors de prix à la télé. C'est le premier film que j'ai supervisé. C'était marrant de le revoir, ça m'a rappelé plein de souvenirs. Il y a des plans que j'avais oubliés, j'ai fait enfin voilà,
ça vous fait quoi?
Bon, c'est de la nostalgie, hein. Voilà, mais c'est chouette, c'est rigolo.
On parlait de la technologie qui évolue, donc on a beaucoup parlé des fonds verts, des fois ils sont bleus.
Ouais.
J'ai vu aussi que ils pouvaient parfois être remplacés par des murs d'écran LED, donc des LED sur les murs, sur le plafond aussi, ça veut dire qu'en fait les images sont directement projetées sur ces murs d'écran, c'est pas des fonds verts sur lesquels après, plus tard, on va incruster des images. Ça veut aussi dire que les équipes qui s'occupent des effets visuels arrivent de plus en plus tôt dans la création du film. Qu'est-ce que vous en pensez et est-ce que ça vous est déjà arrivé d'utiliser cette technique ?
Alors, c'est une technologie qui est toute nouvelle. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, un petit peu, là, dans le fait de pas se lasser, c'est qu'il y a plein de nouvelles technologies qui, tout le temps. Donc, en fait, on est obligé d'être un peu en veille technologique. Donc, voilà. Donc, là-dessus, c'est tout nouveau. Ça a été fait par Disney, là, sur Mandalorian, et qui a vraiment lancé le buzz là-dessus. Donc, là, en ce moment, en France, on s'y essaye. J'ai vu plein de tests qui se font. C'est très intéressant. Il y a plein de choses qui marchent. Ça marche déjà pour la télé, hein. Ils le font déjà pour la télé, ce qu'on appelle le broadcast. Ils commencent à faire des clips, des pubs. Pour la fiction, il y a encore un peu de travail. Dans le sens où on n'a pas les budgets américains, et Mandalorian, c'était quand même des gros studios. Ça pose plein de questions. C'est hyper intéressant, mais on en est vraiment au tout début. Il y a encore du temps à... Enfin, ça peut aller très vite, hein, mais
sur les aspects techniques, c'est...
Ouais, en fait, ça pose plein de questions parce que c'est la technologie du jeu vidéo, c'est-à-dire que c'est le logiciel Unreal qui fait ça, c'est-à-dire que c'est du temps réel. Vous avez un décor 3D en temps réel qui bouge avec la caméra et qui éclaire les personnages. Donc, c'est super. Par contre, ça veut dire que votre décor 3D, il faut le fabriquer en préparation. Et ça, c'est-à-dire que vous passez la post-production en prépa.
Ça change vos attributions aussi.
Ça change les attributions, ça change l'implication, ça change beaucoup de trucs, mais pas que moi. C'est-à-dire que ça change le travail du chef décorateur, ça change. Donc voilà. Donc il y a toute une. La technique, elle est super, elle est là. Maintenant, ça change beaucoup de choses dans la fabrication d'un film. Déjà que nous, on a perturbé la. Quand on est arrivé il y a 20 ans, on a perturbé la post-production avec notre travail. Là, c'est une nouvelle technologie qui encore bascule les habitudes de travail. Donc, voilà, c'est en cours, c'est super. Il y a vraiment des trucs qui vont être vraiment bien. Et on est dessus, hein. On travaille vraiment, nous, dessus. On réfléchit, on regarde comment un réalisateur, en tout cas ceux avec qui on travaille, peuvent accepter et trouver un intérêt dans cette technologie. Donc, il y a encore un peu de travail d'accompagnement là-dessus, mais voilà, on développe.
Ça vous fascine quand même, ces progrès?
Ah ben oui, non, mais c'est génial. Moi, je trouve ça dingue parce que il y a toujours des outils pour raconter des histoires. Après, il faut pas se leurrer. Et c'est pour ça que moi, je fais du cinéma. C'est que vous avez beau faire des belles images, le primordial, c'est le scénario. Donc, tant qu'il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'image.